Alors, avant d'attaquer l'actualité d'Eternal Flight, est-ce que tu pourras nous présenter un peu ton parcours artistique jusqu'à présent ?
Pour revenir à mes débuts, ça a été à la fin des années 80. J'ai commencé avec quelques groupes sur Grenoble, et ensuite j'ai été contacté en 90 pour former un groupe avec Dominique Lorquin. Et on a donc formé Dream Child, avec des musiciens d'Annecy. On a sorti deux albums dans les années 90, dont le deuxième, Between Metal and Gate, qui était sorti chez Metal Blade. Moi perso, j'avais également fait partie de groupes de reprise, et puis j'étais intermittent en fait durant ces années. Et après, début 2001, en fait, j'ai arrêté Dream Child et formé un groupe qui s'appelle Eternal Flight, avec lequel on a sorti 5 albums. Donc il y en a eu un qui est sorti en 2004, Positive Rage, qui était sorti chez Crystallisation de Musique. Ensuite il y a eu Another Sign of Will en 2007. En 2011 il y a eu Initial Reality, Elegies and Mysteries. Et en 2013 on a fait une tournée avec Circle to Circle et Nightmare en Europe pendant 3 semaines. En 2017 il y a eu Retro Future qui est sorti chez Massacre. Et donc cette année, après avoir rongé nos freins, on peut sortir donc l'album Survive. Et puis entre temps aussi, moi en tant que musicien, bah, j'ai continué à faire des reprises pour gagner ma croûte, et donc des tributes à Led Zeppelin et à Police aussi. Et car artistique, mais bon, voilà, ça me plaît aussi de faire ces styles-là. Et voilà, puis j'avais aussi un studio il y a encore quelques temps, puis j'ai enregistré quelques groupes. Moi je fais ça de manière professionnelle en tant qu'intermittent en fait, des groupes avec lesquels je tourne.
D'accord.
Et voilà.
Donc
en résumé, mon parcours.
Ouais, c'est super. Donc comme tu le disais, les plus fins connaisseurs donc te connaissent par Dream Child et donc plutôt donc sur la partie donc tu as le chant à l'époque, le chant et le clavier.
Oui.
Finalement avec le recul, qu'est-ce que tu retiens de cette période Dream Child pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que tu voilà quel souvenir tu en gardes?
De très bons souvenirs dans le sens où voilà, on a fait quand même figure de presse d'explorateur dans les années 90, parce que la scène au tout début des années 90 en tout cas, Heavy Power avait un petit peu baissé parce que la scène plus extrême française en tout cas avait pris le dessus. Et c'est vrai qu'il y avait toute une période depuis les années 90 où il y avait le grunge, il y avait le death metal, des courants un peu plus extrêmes ou alternatifs qui ont fait que bon, ça a été un peu difficile tout début des années 90 pour proposer notre style. Parce que c'est vrai que nous, on était super influencés par les groupes des années 80, et donc la fiction, cette vision de la scène, des choses comme ça. Donc voilà, après on a su ce qui était super cool, c'est que on a fait le truc passionnant et puis on a mis des échelons assez cool, quoi. Regarde, avec les démos, on a été super cool, avec le premier album aussi, hein, c'est passé un peu marchand, on a aussi des bons résultats, on fait un peu dans le Japon, donc c'est juste bon, voilà, au départ on a. Je suis plus parti pour faire du journalisme musical, puis je suis passé de l'autre côté sans qu'au départ, même si c'était un souhait, je pensais pas en faire mon métier et puis que j'arriverais à faire de toutes les choses. Pour moi, c'était parti de rêve, quoi. Donc c'est vrai que voilà, j'ai réalisé pas mal de rêves, et puis bah, voilà, le premier album nous a permis aussi de ensuite rencontrer un idem Brent Slagel, légendaire boss de Metal Blade, qui qui a craqué sur le premier album et les démos du second et a sorti le Chine de Golden Gate. Après c'est vrai qu'il y a eu aussi pas mal de frustrations parce que on trouvait pas de. On avait eu des tournées qui avaient été reportées, annulées, des choses qui ont pas fonctionné, et c'est vrai que ça a un petit peu usé tout le monde et ça a laissé un petit goût d'amertume quand même, le fait d'arriver quand même à faire ces choses-là et puis de pas pouvoir continuer tous ensemble. Donc c'est pour ça qu'après j'ai continué avec le nom d'un des morceaux de Dreamchild, Turn of Light, qui faisait partie du premier album. C'est ça que j'ai donné sinon au groupe actuel pour rappeler un petit peu mon passé et puis s'envoler vers de nouveaux cieux.
D'accord. Donc tu disais qu'est-ce qui finalement t'a amené au chant et en particulier donc à ce chant typé donc heavy. Il y a eu une étincelle, il y a eu un en particulier. T'es d'une famille de je sais pas de chanteurs, d'artistes. Comment c'est venu?
Alors en fait ouais puis tout petit, j'ai la chance d'avoir des frères et sœurs qui m'ont fait écouter plein de trucs, de la pop et qui m'ont fait découvrir le hard rock et le metal. Et au départ, je reste un gros fan des Beatles, mais vite, je me suis dirigé pas mal sur des groupes comme Rainbow, Black Sabbath, Deep Purple, AC/DC, MSG. Et pour reparler un petit peu de ce chant aigu, en fait, je me suis aperçu à l'âge de, je devais avoir 9-10 ans, j'ai découvert In Rock de Deep Purple. Et puis, y avait Ian Gillan quand je l'écoutais faire ses aigus sur Child in Time, tout de suite ça m'a branché, puis j'ai essayé, puis je croyais que j'y arrivais quoi en fait. Mais ça restait en fait, j'ai pas tout de suite intégré les groupes, pendant mon adolescence, en fait c'est à la fin des années 80 que j'ai commencé, mais pour moi ça restait juste une sorte de hobby mais j'ai appris par moi-même, j'ai en écoutant sur les disques, en reproduisant, c'est comme ça que c'est parti. Et puis après bien sûr quand après Deep Purple, quand les Maiden, avec Definition sont arrivés, les Queen Thrash avec Geoff Tate, moi je me retrouvais bien dans ce type de chant lyrique, et puis plus tard Crimson Glory avec Midnight, et puis bien sûr Balfour de Judas Priest.
Ouais, dans le genre aigu, il y a Rob, ou peut-être King Diamond, mais c'est peut-être un peu spécifique, mais.
Alors King Diamond, je connaissais à l'époque. Après, je suis pas non plus fan. C'est pas une affaire en tout cas pour moi. Mm-hmm. Même si je respecte absolument le truc.
Bien sûr.
Ils ont apporté tous beaucoup de trucs et puis le chant, son style et puis tout son concept. Mais ouais, c'est plus les chanteurs que je t'ai cités, avec aussi bien sûr Dio et puis plus tard aussi des gens comme Karl Lambert. Choses romans, des chants assez aériens, mélange de puissance et d'irine, j'espère.
D'accord. Comme tu le disais, donc déjà une belle carrière pour Eternal Flight. Tu le mentionnais en 2017, donc vous avez sorti Retro Future, le quatrième.
Oui,
donc c'est il y a 4 ans maintenant. Qu'est-ce que tu. Quand tu penses à cet album, Retro Future, qu'est-ce que ça t'évoque? T'as un souvenir qui te reste en particulier?
Il y en a deux en fait. Moi ce que j'ai aimé dans le fait de composer cet album avec le groupe, c'est la variété des titres en fait qu'on avait sur cet album, qui passait du power au prog metal, et puis le fait aussi de pouvoir sortir sur un label comme Massacre, ça assoit un petit peu le truc. Et puis une deuxième chose aussi, c'est que sur 3 titres, on a eu un invité de marque quand même avec John McAlzo, le batteur de l'ancien batteur de Heart, Lou Hamstein, TNT, il a joué aussi avec la Blanc, il a un CV long comme 20 bras. Donc c'est un gars super qui a porté vraiment sa patte sur ses. Sur les 3 premiers titres en fait qu'on a commencé à faire. Après, on n'a pas pu faire tout un album avec John. Pour des raisons de logistique, et puis moi je voulais quand même quelqu'un qui soit plus dans le secteur, parce que c'est vrai que les groupes qui se forment à partir de personnes à droite à gauche en Europe, ça existe, dans le monde ça existe, mais c'est pas le forcément la finalité de Return of Flag, même si on a eu pareil dans le passé sur le troisième album, June, c'est pas Billy Shriety, il y avait Ricardo Confessori à la batterie, et des invités comme Chris Caffrey, Savatage, guitare, il y avait Rob Love, Magnusson aussi, qui a fait des solos, et Mark Maggi de Vicious Romance. Donc voilà, c'est, après ça c'est un petit peu des apartés, puis mais là le but, enfin voilà, de Return of Flag, c'est quand même de garder un line-up, puis avec des gens qui soient tout en même, quoi. C'est pour ça que sur ce nouvel album, pareil, en 2019, donc il y a un des deux guitaristes qui est parti, et j'ai pris le relais en fait, parce que on avait des propositions d'autres personnes, mais qui étaient sur d'autres régions, et c'était un petit peu compliqué de le faire, hein, puis on voulait vraiment répéter tous ensemble et faire des choses ensemble, quoi.
D'accord. Mais le vouloir, c'est bien, mais en plus, il fallait que tu puisses le faire, et donc que techniquement, tu te dises que et là, cet album est la preuve que tu puisses tranquillement assurer les parties d'un soliste, quoi.
Alors ouais, en fait, ce qui se passe, bon, c'est vrai, on n'a pas parlé tout à l'heure par rapport à mon parcours. Je reviens dessus justement sur d'autres groupes de reprises ou en tant que voilà musicien. La guitare, par exemple, j'en joue depuis pas mal d'années. Je
compose
beaucoup, enfin, je composais beaucoup de choses sur les albums précédents et même depuis Dreamchild. Sur Dreamchild aussi, je faisais quelques apparitions acoustiques, mais c'était pas comme là où on se retrouvait en fait à répéter à 4. Et moi, pendant les répétitions, en montrant les riffs et tout ça, au fur et à mesure du temps, à partir de 2019, en fait, j'ai commencé à prendre plus confiance en moi, et puis à mettre les bouchées doubles, et puis à vraiment bosser pour devenir également soliste, ou parfaire mes connaissances en tant que soliste. Que bon voilà, pour la compo, les choses comme ça, et puis d'autres morceaux, j'y arrivais. Mais chanter et jouer de la guitare dans les temps de fête, c'est une autre paire de manches. Donc ça a été beaucoup de boulot, et c'est toujours beaucoup de boulot actuellement pour pouvoir le faire en live. Et mais voilà, c'est vrai que pendant le premier confinement, j'ai fait mes parties de guitare pendant ce premier confinement, pour le printemps 2020, et j'ai bossé d'arrache-pied, mais c'est vrai que c'était. Toute la frustration qu'il y avait de chez soi de pouvoir rien faire, en fait, je l'ai passé dans la créativité, et également dans ses solos, à essayer de faire des choses chouettes, et aussi, me mettre à niveau et rendre hommage aussi aux anciens guitaristes qui ont fait partie du groupe, quoi, parce que fallait pas non plus que je me mette à la guitare solo pour faire du n'importe quoi. J'ai vraiment bossé beaucoup, et puis, ça m'a fait du bien de le faire justement pendant ce confinement, parce que ça m'a permis de rester créatif, outre le chant que j'ai enregistré aussi pendant cette période, et les parties de clavier, bon voilà, c'est le gros challenge, et puis ça, voilà, j'avais le temps.
D'accord. Sauf erreur de ma part, enfin en regardant les vidéos, là vous avez les deux vidéos, on y reviendra, vous avez sorti, tu joues sur une Yamaha Pacifica, c'est ça?
Oui, tout à fait, ouais.
Pourquoi cette guitare en particulier?
Comme il y a quelques années, je jouais déjà sur Yamaha en électroacoustique. J'ai un accord aussi avec Yamaha, et puis on regarde un petit peu ce qu'ils avaient comme guitare. Après ça c'est le haut de gamme des Pacifica, enfin en cette période, hein,
ouais.
Avec des chouettes micro SH4 que j'ai pas utilisé par exemple. Et elle est super polyvalente. C'est-à-dire que tu peux avoir dans un bon ampli, hein, un gros son métal comme plein de sons rock, clair, crunch, enfin tu peux tout faire avec cette guitare, elle est facile à jouer, polyvalente, voilà, c'est...
Mais justement certains pourraient considérer qu'elle n'est pas assez typée, tu vois ce que je veux dire, elle est peut-être... Ouais, toi c'est peut-être justement ce que tu cherchais, le fait qu'elle soit très large et qu'elle puisse tout jouer, mais par exemple ton autre guitariste a une guitare beaucoup plus typée, enfin, c'est peut-être justement très complémentaire entre vous deux.
Oui. Ouais, c'est sûr que comme Thibaut joue sur une Dean, voilà, c'est lui, il a plus ce look et ce son typé très métal. Mais justement le fait qu'on ait deux types de sons différents, ça se marie très bien dans le mix. Et quand on joue on répète en live, ça sert à rien d'avoir les deux mêmes sons pour ça se joue, et puis je trouve que c'est bien aussi d'utiliser deux guitares qui soient, en tant que, enfin voilà, moi je qui me retrouve là-dedans. Je vais avoir aussi une RGX, le modèle que utilise Smolski, de l'ancien guitariste d'Orage. Mmh. Oui, tu connais. Donc lui aussi, il est chez Yamaha et on peut pas. Et même si, bon voilà, c'est vrai que c'est pas la marque la plus prisée dans le monde du métal, mais il y a quand même de sacrés musiciens qui en jouent.
Ouais, bien sûr.
Pareil, hein, il y a Billy Sheehan, il y a eu Mayang aussi à une époque qui jouait sur les bassiens. Non, non, c'est des très bons instruments aussi. Et,
d'accord. Est-ce que la tendance là des 7-8 cordes, c'est un truc qui t'intéresse ou pas du tout?
Je t'avoue que non. Ah bon, ça me plaît de regarder de temps en temps, enfin, ceux qui en jouent, et voilà. Après, moi personnellement, je préfère rester 6 cordes, il y a déjà beaucoup de choses à faire.
De possibilités, ouais.
Mais après, bon, ça dépend des types. C'est vrai qu'il y a certains groupes qui sont plus gras dans le son. Enfin, voilà, c'est vrai que ça se justifie, hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci. C'est même très bien. Mais il faut avoir de grandes mains aussi. Mais je n'ai pas de très grandes mains.
D'accord.
Pour ces manches-là, quoi.
Finalement, quelle était ton idée directrice au moment où tu as attaqué la composition de Survive? Est-ce que d'abord tu peux nous dire quel premier titre que tu as finalisé, si tu t'en souviens?
Alors, il devait y avoir dans le lot de, si mes souvenirs sont bons, peut-être Hear the Call. Et Legends. Je sais que les derniers qu'on a bossé tous ensemble, c'était Will We Rise Again, Children of the Earth, Evolution, Revolution, Mysterious King, si je dis pas de bêtises.
D'accord.
Donc il nous reste, ça devait être The Call of Legends, The Promise, qui était dans les premiers, voilà, enfin, les premiers titres qu'on a composés. Et alors, c'était peut-être rendre le. Je pense que cet album-là est classé dans le métal mélodique. Alors, c'est peut-être avant, on était plus dans un métal prog, sur tout un album, mm-hmm. pour avoir métal mélodique avec pas mal de plans de prog. Parce que celui-là, même s'il y en a, je dirais que voilà, les morceaux comme Hear the Call étaient plus simples, plus
ouais.
directs.
Ouais, c'est ce que je veux dire, plus direct, ouais.
Voilà, que par le passé. Et ça a donné une certaine ligne, mais après on s'est lâché justement, vu qu'on avait déjà composé des morceaux comme ça, c'était parmi les premiers, ce qu'on a composé après, comme Will We Rise Again, comme Children of the Earth, où c'est un morceau un petit peu à tiroir, qui est un peu plus planant mais prog aussi, nous ont permis de nous lâcher aussi sur plein de plans, quoi. Mais la musique, elle vient d'abord, et ça m'a influencé au niveau des textes et ça m'a amené vers ce concept-là, en fait. Avec le retour du Nightmare King, qui n'est pas cité en tant que titre de morceau, comme sur certains autres albums et le précédent. Quoi. Mm-hmm. Mais voilà.
Finalement, tout ce que vous avez finalisé apparaît sur l'album ou vous avez fait un tri un moment ou un autre?
Il y a deux, trois idées qu'on a laissées de côté qui collait pas forcément au concept ou au restant des autres morceaux qui étaient bien, mais pas forcément, soit au niveau, soit en termes de style, n'était pas forcément au départ trop bien. Puis pour cet album-là, voilà, c'est vrai que l'album précédent, on avait, je crois, 13 morceaux. Là, on a essayé de faire quelque chose de plus compact, comme vraiment on voulait quelque chose de plus direct, mmh. et vraiment proposer 9 morceaux. Voilà, un album un peu plus court. Mais plus accessible, je dirais, sans être commercial non plus, mais voilà, qui parle peut-être à plus de gens facilement, sans savoir à ce qu'on promettre, et tout en gardant quand même notre style.
En termes de composition, tout est neuf ou il y a des idées de peut-être rétro-futur ou même du passé que tu n'avais pas réussi à finaliser à l'époque ou que je ne trouvais pas la bonne suite ou non, là, tu es vraiment parti de feuille blanche pour cet album?
Ouais, non, ça, ça, ça a été la feuille de hanche en fait. On est parti chacun d'idées qu'on avait. Enfin, on bosse en général un petit peu à la maison, mais là sur cet album-là, on s'est vraiment plus retrouvé à quatre au local à parfaire justement ce qu'on mettait sur Logic Pro par exemple, des choses comme ça, en faisant des petites démos, des premiers riffs, des premiers jets. Mais après on a réarrangé les morceaux tous ensemble. C'était vraiment un travail de groupe plus que sur les albums précédents.
D'accord.
On a un petit peu plus ce qu'on avait connu, c'est parce que j'avais connu en tout cas avec les premiers line-up en termes de travail. C'est-à-dire que même si sur cet album-là j'ai encore amené beaucoup des riffs, des idées, des compos, il y a quand même plus un travail d'équipe pour un réarrangement. Et puis Thibaut a amené par exemple une grosse partie de Mysterious Kings, enfin Thibaut du coup le guitariste, puis Thibaut Ponté, batteur, a apporté une bonne partie de Is This The End, et puis qu'on a réarrangé ensemble pour que ça se fonde dans le style, dans l'album, c'est une certaine cohésion tout en restant assez ouvert au niveau du style. Mais ouais, on est parti de nouvelles idées, on a rien utilisé de fond de tiroir ou de choses qu'on n'avait pas bossé sur Rétro-Futur.
D'accord.
Mais par contre, oui, il y a eu quelques morceaux, quelques extraits, quelques trucs, on s'est rendu compte que ça irait pas sur cet album-là, quoi.
Ok. Comme tu l'avais mentionné précédemment, donc vous avez mis en boîte cet album dans ton studio.
Ouais.
Contrainte économique ou volonté de tout maîtriser, ou les deux?
Il y a une certaine contrainte économique en fait, parce que c'est vrai que maintenant les labels moins en moins d'avance ou pas du tout. Et,
ouais, parce que ce que tu as fourni à Metalapolis Records, c'est l'album terminé.
Tout à fait, ouais. Ouais, ouais.
D'accord.
Ils sont pas intervenus dans le financement de l'album.
Ok.
C'est un contrat de licence en fait. C'est.
Ouais, ils assurent la.
Le pressage de la promo, ouais, le pressage de la promo, la distribution.
Voilà. Ils assurent qu'ils soient disponibles en Europe.
Voilà. Et pour après, maîtriser les choses, ouais, dans le sens. Bon, de toute façon, j'ai avec mon studio et l'endroit où j'étais auparavant, enfin, j'ai dû les laisser l'an dernier, en fait, hélas. Mais on avait quoi, on serait les batteries, enfin, tous les instruments de manière organique, de meilleure des manières. Et puis après, ça permet aussi de garder la patte aussi du groupe et du son du groupe. Garder les choses assez naturelles. Bon, je voulais pas non plus d'un mix externe qui allait tout remplacer. Parce que c'est vrai que maintenant, on retrique tout, on réentre tout. Et puis après, c'est toujours les mêmes sons qui reviennent. Et je trouve ce qui est un petit peu dommage, moi, en tant qu'amateur de musique, personne qui achète beaucoup de choses aussi encore. Parfois ça me saoule d'entendre des producteurs qui mettent trop leurs pattes ou qui dénaturent le son du groupe. Là on a essayé d'être entre les deux, avoir un son organique et puis en même temps assez moderne et qui soit péchu. Et donc c'est le fait que j'ai enregistré et mixé le groupe et puis qu'on soit resté, je veux dire, entre nous pour le faire, c'est une manière de maîtriser les choses, mais aussi parce que ben voilà, on aime avoir notre propre style, notre propre son, et c'est pour ça qu'on est parti sur cette voie là.
D'accord. Un élément, je pense, qui frappera positivement beaucoup d'amateurs, surtout dans ce genre-là, c'est la pochette de Giannis.
Oui.
Comment ça s'est passé, la collaboration avec lui?
Bon, en fait, j'ai regardé un petit peu sur le net et j'essaie de trouver des pochettes qui étaient marquées. Puis je suis tombé sur celle du dernier Oceans of Slumber. Paru l'an dernier, et j'ai trouvé ça merveilleux, magnifique, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible, ça, voilà, c'est qui. Puis je me suis aperçu qu'en fait, voilà, Giannis Nakos avait également fait l'avant-dernier, maintenant, Evergrey, puis même le dernier, et puis comme The Crown, puis à chaque fois avec voilà, il y a un petit vraiment onirique, et puis en même temps épique, et il peut être moderne, il peut ressortir beaucoup de choses. En fait, j'ai contacté sur le net, et on s'est tout de suite très bien entendu. Bon, faut savoir aussi qu'il demande carte blanche, même s'il demande des éléments, des textes et autres, pour pouvoir travailler sur ce qui correspond au groupe. Moi, je lui avais parlé aussi du Morphénix, donc notre mascotte. Mmh. Et donc voilà, après, je ne savais pas comment il allait le mettre en scène, ce qu'il allait mettre. Il m'a dit que je voudrais un truc peut-être plus sombre pour le groupe. Bon, c'est bien parce que c'est vrai que l'album est un peu plus sombre aussi au niveau des textes, enfin de certains textes. Je lui ai dit, bon, ok, ça sera la surprise et je te fais confiance. Et bon, c'est vrai que par rapport à ce que j'avais vu sur les pochettes, sur les groupes avec qu'il avait bossé, bon voilà. Quand on a reçu après la pochette, bon, voilà, on était ravis, on était complètement fous, quoi. Et ça, c'est une bonne chose aussi, qui a poussé aussi le label à sortir la donne aussi en ligne.
D'accord. Donc il n'y a eu finalement pas ou très peu de retouches entre ta proposition et la version finale.
Pardon, tu peux répéter, s'il te plaît.
Il n'y a eu pas ou très peu de retouches entre sa proposition et la version finale.
Ah ouais, mis à part peut-être la grosseur du logo et puis le titre, la police, ce qui nous a fourni, ouais, je crois qu'on avait changé de tacle, parce qu'il a fait aussi le dos de la pochette. Mmh. Il y a eu un petit détail qu'on a fait rajouter, mais sinon après, c'était tout de suite le top, quoi. Donc c'était un gros risque, parce que c'est vrai que s'il avait fait quelque chose qui ne nous avait pas plu, bon voilà, on aurait été un petit peu mal, mais il y a une grosse confiance entre nous, et ouais. Puis voilà, on s'est quand même bien expliqué par rapport à certaines choses qu'on voulait, puis après bon, il a fait vraiment sa sauce, et puis voilà, c'est un super artiste, quoi, donc
d'accord. Et juste, alors peut-être sans bien entendu de dévoiler de secret, mais cette image-là, ça peut pas, enfin entre guillemets, elle peut pas apparaître sur d'autres albums.
Ah non.
C'est la vôtre. C'est Eternal Flight. Ad vitam aeternam.
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est-à-dire que lui a certains boulots qu'il a déjà. Mais cette pochette-là, il l'a sorti.
Pour vous. C'est pas juste j'achète l'utilisation de l'image, c'est l'image pour vous.
Ah oui, tout à fait.
D'accord, ouais. Ok.
Oui, c'est exclusif, ouais, c'est ça, ouais. Qui est mis à partir du moment où on a discuté, mais c'est pas quelque chose qui existait déjà. Parce que je sais que parfois il a des choses qu'il a déjà en stock, qu'il propose à des groupes, parce que les groupes peuvent prendre si ça correspond à,
bien sûr, ouais,
à leur concept. Mais là, on est parti de rien, pareil, voilà, on lui explique un peu des textes, et je lui dis que voilà, il fallait qu'il monte une sur la pochette, il faut voir les autres pochettes, c'est pas les albums précédents. Puis après, il a fait sa sauce, et
d'accord.
Voilà, il a fait un super barbe, quoi.
Ouais. Toujours dans le domaine visuel, donc vous avez sorti deux clips, un pour Hear the Call et pour Will We Rise Again. En particulier, tu peux nous dire comment ça s'est passé le tournage pour Hear the Call, qui est peut-être le plus impressionnant des deux, même si l'autre est très bien aussi.
Ouais, en fait, Hear the Call, donc on s'est au-dessus de Bois, il y a un château qui est en réfection, qui est quand même assez superbe, qui est dans le coin de Thibaut, notre guitariste, et il se trouve en hauteur, et j'ai dit que ce serait un bon endroit pour ce type-là qui est un petit peu présente un petit peu les Mysterious Kings, enfin voilà, leur pouvoir, enfin le fait qu'il y a de l'espoir, il y a l'aspect combat aussi, avec ce château fort, ça donne un côté épique. Donc puis pareil, on avait une caméra sur un drone
ouais.
Voilà, qui tournait autour de nous, qui tournait au-dessus, pas loin, qui pouvait voir un petit peu là où on est originaire, en fait, voilà, au Savoie.
Mmh.
et donc ouais, c'était super fun, il était super chaud aussi. on a bien morflé ce jour-là, parce qu'il y a eu beaucoup de prises, et puis on est monté en 4x4 carrément, parce que il y avait une route mais c'était à pied, alors je te raconte pas avec une batterie, des instruments, enfin,
ah ouais, tu m'étonnes.
Un petit peu la galère, heureusement des amis à Thibault nous ont gracieusement monté là-haut, quoi, parce que c'était donc un petit peu, mais ouais voilà, c'est des petites aventures qui font des anecdotes et ouais, je trouve que c'est cool justement, et fier de quoi l'appel, et puis c'est un petit peu ces grands espaces, ce château, enfin voilà, c'est
d'accord.
Cool. Mmh. Ça posait un petit peu le truc de manière épique. Puis après, pour Will We Rise Again, c'est un petit peu différent. On a bossé dans un local de répétition qui se trouve dans une salle de spectacle à Annemasse, en Haute-Savoie, donc qui s'appelle Château Rouge. Et puis, on l'a agrémenté aussi d'images superposées.
C'est ça, avec les paroles.
Un petit peu les textes. Mmh,
c'est ça.
Pardon ?
Mais c'est ça, on voit comme les pages d'un livre qui reprennent les paroles de la chanson.
Alors c'est un peu coupé, j'ai pas entendu ta question.
Effectivement, dans le clip, on retrouve des pages d'un livre qui reprennent les paroles de la chanson.
Oui, tout à fait. Parce qu'au départ, voilà, ça devait être juste une Lyrex vidéo toute simple.
Mm-hmm.
Et puis je me suis dit, ouais, c'est quand même dommage. On nous voit aussi en train de jouer. Et puis je me suis dit, bah, Lyrex vidéo, texte, pourquoi pas apparaître dans une sorte de livre, vu que c'est un album concept, c'est des chroniques. C'est pour ça que j'ai conçu cette espèce de livre qu'on peut voir. C'est une manière originale d'apporter une sorte de vidéo, Lyrex vidéo en même temps, enfin d'amener les textes différemment que sur les autres Lyrex vidéo où on voit les textes apparaître, disparaître, etc. Enfin, d'une manière, je dirais plus. Comme des effets d'ordinateur, en fait, de Photoshop.
D'accord. Pour conclure cette interview, parce que il va être temps, qu'est-ce que on peut vous souhaiter pour les semaines et mois qui viennent, et qu'est-ce qui est déjà dans les tuyaux, justement, pour les semaines et mois qui viennent?
Alors, on espère, justement, pouvoir concrétiser tous les contacts qu'on a pour les concerts, et aussi que notre label nous repropose quelque chose pour dans 3-4 mois.
Mmh.
C'est vrai qu'on aurait aimé faire ces dates-là en septembre, mais on nous a proposé ça assez tard, donc c'était un petit peu compliqué. Mais ouais, voilà, pouvoir défendre cet album finalement sur scène, et puis espérer que aussi les gens accrochent sur cet album. Je pense qu'il est comme j'en ai parlé, plus simple, plus accessible au niveau des mélodies, des morceaux. Je pense qu'il peut plaire à un grand nombre de fans de heavy metal. Oui, ce qui est dans les tuyaux, c'est les concerts, c'est une tournée au moins, enfin, voilà, quelque chose. Je pense de cette période instable.
Et puis, d'accord. Bah, écoute, de toute façon, il faut continuer à suivre le groupe sur ses réseaux sociaux. Et puis, voilà. De toute façon, vous annoncerez tout ce qui arrive via Facebook & Co, quoi.
Voilà, oui. Et puis bon, c'est vrai qu'avec justement des webzines, des magazines comme le tien, on va continuer à faire des interviews et être chroniqués, tout ça, pour mettre en avant cet album. Et ouais, nous, on aimerait vraiment défendre cet album maintenant sur scène, parce que c'est vrai que la scène pour Eternal Flight, ça manque, ça fait déjà quelques années avec ces confinements et autres.
C'est clair.
On n'a pas pu en faire, donc voilà, c'est notre souhait, notre but pour les mois et l'année qui vient.
Ben écoute, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous répondre. Et puis,
c'est un plaisir.
Et puis, j'espère plutôt de dire à bientôt pour la suite des aventures Eternal Flight.
Ok, et ben merci beaucoup. Et puis, sur tout le monde, portez-vous bien.
Merci, à bientôt et bonne soirée.
Salut.
Ciao.
Ciao.